La compassion de Dieu. Quel bel attribut, quelle belle facette de l'Éternel, celui qui est notre Dieu, celui qui est notre Père. Mais est-ce qu'on peut vraiment prier comme ça a été prié tout à l'heure, que la bienveillance de Dieu est efficace? Est-ce qu'on peut vraiment prier que l'Éternel est notre roc, celui qui ne bouge pas, celui sur qui on peut compter en tout temps? C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. On nous a parlé de la compassion de Dieu, et on va essayer de découvrir une autre facette, je vais vous en parler tout à l'heure, une autre facette de Dieu qui évidemment est liée aussi avec la compassion de Dieu, et on fera le lien tout à l'heure. Parce que, en réalité, dans la vie, est-ce que ça vous est déjà arrivé de planifier quelque chose, du début à la fin, d'imaginer même la réalisation finale? Ça peut être acheter une maison, prévoir des vacances, envisager d'avoir un enfant, ou juste vouloir partir faire une course, ou aller au travail, passer un concours, et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en fait, il n'y a rien qui va. Tout s'écroule. La voiture ne démarre pas, le réveil ne sonne pas, il y a des bouchons sur la route, ou un imprévu financier, où on nous annonce qu'on est stérile et qu'on ne pourra pas avoir d'enfant, où on veut se marier, mais la femme de ma vie n'arrive pas. Parfois, ça peut même être quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues. Un collègue qui critique notre travail devant le patron, ou un employé qui ne se soumet pas à vos directives si vous êtes patron. Un enfant qui n'en fait qu'à sa tête le soir, alors que vous aviez prévu une soirée en amoureux avec votre mari ou avec votre épouse. Et parfois, ça peut même être nous qui sommes la cause de ce rien qui va, n'est-ce pas? Parfois, c'est nous qui sommes responsables de l'échec, de l'inconstance de la vie. En tout cas, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que la vie est inconstante, que les choses bougent tout le temps, qu'on pense prévoir des choses et en fait, des fois, ben, ça ne se passe pas comme prévu. Et effectivement, du coup, on pourrait se poser la question, mais avec Dieu, est-ce qu'on peut prier que lui ne change pas? On pourrait se poser la même question. Il a un plan, n'est-ce pas? Le meilleur des plans, celui de restaurer sa création brisée. Depuis Genèse 3, l'humanité choisit la voie de l'indépendance, la voie du péché. Dieu promet dès ce moment-là qu'un jour, quelqu'un viendrait pour mettre fin au mal. Quelqu'un viendrait pour écraser la tête du serpent, pour détruire Satan. Mais quand on commence à parcourir le livre de la Genèse, on se dit que, ben, elle tarde, cette descendance. Même les héros de la foi sont parfois des vrais héros, n'est-ce pas? Noé, ouais, il construit un grand bateau, il obéit à Dieu, mais il s'est fait avoir par le piège du vin. Abraham, homme qu'on appelle souvent le père de la foi, hein, celui qui place sa confiance en Dieu face aux promesses de Dieu, de l'Éternel, ben, un peureux, un impatient, quelqu'un qui a été couché avec la servante de sa femme pour essayer d'avoir une descendance, essayer de forcer les choses, essayer de forcer le plan de Dieu. Et face à tout ça, on pourrait dire, mais Dieu, est-ce qu'il va vraiment réussir? Le mal semble trop présent, et on le voit encore autour de nous, le mal semble trop présent. Est-ce que Dieu va devoir jeter l'éponge? Est-ce que Dieu va devoir dire, bah non, j'ai essayé, mais c'est trop dur? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ce matin. À travers un texte dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 26, vous pouvez le lire, on restera essentiellement dans ce texte. Et on va voir dans une première partie les inconstances d'un homme de Dieu, d'un homme de Dieu. On va voir que même un homme de Dieu, un homme de foi, est inconstant. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai toutes ces terres à ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur ». Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait « ma femme », parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimélec, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » ?» Isaac lui répondit « J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimélec dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple. « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Alors tout semblait pourtant bien commencer pour notre ami Isaac, non ? Dieu lui donne une indication, même un ordre, « Ne descends pas en Égypte !» Et qu'est-ce que fait Isaac ? Il obéit, il reste, il ne descend pas en Égypte. Isaac place sa confiance en Dieu. Oui, c'est la famine, ok, mais Dieu me promet les mêmes choses qu'à Abraham, une descendance, un pays, être source de bénédiction pour tous les peuples. Certes, c'est la famine, mais je fais confiance en Dieu. Il me dit, ne descends pas en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne descend pas en Égypte. Isaac, on pourrait même dire que, il fait mieux que son père. Parce que dans Genèse 12, lorsque Abraham vit la famine, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend en Égypte. Alors c'est vrai que Dieu ne dit pas directement à Abraham, ne va pas en Égypte. Donc on ne va pas aller trop loin dans cette idée-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Isaac, lui, il obéit. Il n'y a pas d'ambiguïté. Isaac fait ce que Dieu lui demande parce qu'il lui fait confiance. C'est la famine, mais Isaac croit que Dieu sera fidèle dans ses promesses. Et il croit et il agit en conséquence. Il reste là où Dieu lui dit de rester. Voilà un bel exemple de foi, n'est-ce pas ? Dans la difficulté présente, Isaac tient ferme. Pas parce qu'il est plus valeureux, mais parce que Dieu lui fait de belles promesses et il y croit. Et on aimerait que ça se finisse là, non, l'histoire ? On aimerait un beau happy end et se dire, Isaac, c'est peut-être même la descendance. Voilà quelqu'un qui obéit à Dieu en tout point. Mais malheureusement, l'inconstance a frappé Isaac. Isaac a eu peur. Isaac reste dans le pays où Dieu lui demande de rester, mais face à une potentielle menace de mort, Isaac a peur. Comme Abraham lui-même a eu peur, si vous connaissez l'histoire d'Abraham, il a fait deux fois la même chose. Deux fois, il a dit, dans un pays étranger, en fait, c'est ma sœur, en parlant de sa femme. Deux fois. Isaac le fera qu'une fois, mais quand même. Isaac n'est pas plus fiable que son père. Sa foi n'est pas plus grande ou plus forte que celle d'Abraham. Il a été inconstant. Et peut-être une première chose qu'on peut se dire ce matin, c'est que, attention, parce qu'une obéissance aujourd'hui ne garantit pas une obéissance demain. Je peux pas me dire, ah bah aujourd'hui, en plus on est dimanche, tout va bien, on a entendu de beaux textes sur la compassion de Dieu, aujourd'hui je fais confiance en Dieu, du coup demain tout ira bien. Non, demain je peux aussi me planter. Demain je peux plutôt placer ma confiance en moi-même que en Dieu. Dieu nous appelle à placer notre foi dans notre vie tout entière. La vie entière doit être une succession de pas de foi et pas juste me dire « Ah ben, une fois dans ma vie, j'ai placé ma confiance en Jésus et du coup, maintenant, je fais ce que je veux. » Ou du coup, aujourd'hui, ah, j'ai l'assurance que je vais pas faire de bêtises. Non, un pas de foi, une obéissance ou un pas de foi aujourd'hui ne garantit pas l'obéissance de demain. Mais si on revient à notre histoire, on va pas se mentir, on peut comprendre qu'il ait peur. Il est dans un pays où il y a des étrangers, un pays où probablement les gens ne craignent pas forcément l'Éternel, et il a une femme qui est belle dans ce pays étranger. Et il sait pertinemment ce qui peut lui arriver. Je pense pas qu'Isaac est en train d'avoir une crise de paranoïa et qu'il se dit il en fasse tout un plat de pas grand-chose. Non, je pense honnêtement qu'il peut, entre guillemets, avoir raison d'avoir peur. En tout cas, je pense qu'il sait, il a peur de ça, c'est qu'il, même peut-être qu'il a vu des choses ou il a entendu des choses. Et être le mari d'une belle femme, eh ben, ça peut être la cause d'un assassinat, ça peut être la cause de la perte de sa vie. Or, là aussi, une petite parenthèse, il va dire que c'est son frère. En vrai, ça le protège lui, ça ne protège pas sa femme. Hein. Parce que si c'est son frère, bon, lui, il a la vie sauve. Par contre, bah, comme va dire Abimélec, hein, bah, en fait, un gars du peuple aurait pu coucher avec. Donc, pour se protéger, il met en danger sa femme. Donc le problème, en fait, parce que la peur, c'est pas une émotion qui est forcément négative, ça peut être normal d'avoir peur. Le problème, c'est pas la peur, mais c'est ce que j'en fais. C'est ma réaction face à cette peur. Et le problème d'Isaac, c'est que sa peur l'a poussé au mal, à mentir, à mettre sa femme en danger. Et le mal n'est jamais justifiable. Même lorsque j'ai peur, même lorsque je souffre, le mal que je fais n'est jamais justifiable. Isaac, cet homme qui avait confiance en Dieu durant la famine, à ce moment-là, il devient peureux et il oublie la promesse d'une grande descendance. Il oublie que si une grande descendance lui est promise, eh ben Dieu, d'une manière ou d'une autre, va le protéger. Lui et sa femme, parce que Dieu ne permettra pas que son plan échoue. Même s'il est au milieu d'un peuple étranger avec un risque de mourir, à ce moment-là, il oublie que Dieu est fidèle à ses promesses. Et on peut dire que la crainte des hommes, c'est une crainte qui est quand même assez universelle. Elle peut se manifester de plein de manières différentes. Mais la crainte des hommes est à la source de bien de nos inconstances, n'est-ce pas? En tout cas, pour moi, c'est le cas. Parce que j'ai peur des hommes, souvent, je suis inconstant. J'ai la volonté d'être un témoin fidèle de l'Évangile lorsque je suis chez moi, bien tranquille, au chaud. Mais lorsque je suis au travail, j'ai peur. J'ai peur d'ouvrir la bouche. J'ai peur de prendre position, parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi, vont dire de moi. J'ai des exemples dans ma vie où clairement, j'aurais pu annoncer l'Évangile. La porte, elle était ouverte, grand. Et j'ai eu peur. Et j'ai refermé la porte, parce que j'ai eu peur des hommes. La peur des hommes est à la source de bien de nos inconstances. Inconsistance, inconstance dans notre témoignage, mais inconstance aussi dans notre éthique, dans notre moralité. Ici, la peur des hommes a poussé Isaac à mentir, à mettre sa femme en danger. Est-ce que la peur des hommes ne peut pas aussi, moi aussi, me pousser à de mauvaises paroles ou de mauvaises actions? Combien de fois, lorsque j'étais au lycée, je me suis assis sur le banc des moqueurs pour pas être moqué moi-même? À laisser le patron être critiqué par les autres pour pas être mis de côté à la machine à café? La peur des hommes, la crainte d'être mal apprécié par ceux qui m'entourent, c'est un catalyseur pour le péché. Elle est à la source de bien de nos inconstances, comme elle l'a été pour Isaac, comme elle l'est dans ma vie. Alors, quelle solution? Nous tourner vers celui qui n'a pas eu peur du regard des hommes, qui n'a même pas eu peur que les regards se détournent de lui à cause de sa souffrance. Nous tourner vers Jésus qui a osé prier « Que ta volonté soit faite », en sachant pertinemment que la volonté de Dieu, à ce moment-là, pour lui, c'était la mort, la souffrance, les insultes, les crachats, les coups de fouet, la honte absolue. Que ta volonté soit faite. Heureusement que notre Sauveur n'a pas eu peur des hommes, mais qu'il a craint son Dieu. Nous tourner vers lui nous apporte le pardon de nos inconstances et ça nous permet de vivre une vie nouvelle. Voilà ce que Paul dit dans Galates 1, verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et on sait là où ça l'a amené aussi, Paul. Face à nos inconstances, nos propres inconstances, tournons-nous vers celui qui n'a pas eu peur des hommes pour obtenir le pardon de nos péchés, pour obtenir le pardon de nos inconstances et pour nous laisser transformer, pour nous laisser transformer nos regards, nos pensées, que ce soit la crainte de l'Éternel qui guide nos pas et non pas la peur des hommes. Je continue la lecture du texte à partir du verset 12. On va voir que, après les inconstances de cet homme de Dieu, on va découvrir les inconstances de la vie et comment la vie peut changer du jour au lendemain. Verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Je m'arrête là dans la lecture, mais la suite du chapitre continue. Avec encore des puits creusés et encore des querelles. Et puis enfin, ils vont trouver un puits où il n'y aura plus de querelles, il y aura une espèce de réconciliation, on y reviendra tout à l'heure. Mais on voit dans la suite du chapitre, si vous le lisez chez vous, que l'inconstance de la vie continue. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, en quelques lignes, Isaac passe de la famine au verset 1, à la richesse au verset 13, à des conflits au verset 21, et une sorte de réconciliation, on ne l'a pas lu, mais au verset 28 et verset 32, ce nouveau puits qui ne va pas amener la querelle, un puits avec de l'eau vive qui leur permettra de faire boire leur troupeau. Et peut-être que tout ne nous parle pas, en tout cas moi, ça ne me parle pas entièrement parce que je ne suis pas un cultivateur, et je je peux pas imaginer à quel point l'eau est importante, surtout dans un pays comme celui-là. Mais on peut quand même comprendre ce qu'a pu traverser Isaac, ce qu'a pu imaginer Isaac. La famine, plus rien à manger, ni pour ma famille, ni pour mes troupeaux. Et Dieu me demande de rester, et je reste. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre à Isaac que ses plantations donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et Isaac va devenir très riche. Alors la vie est inconstante. On peut tout perdre, on peut tout gagner en un jour. Et ici, on a des circonstances extérieures, hein, la météo. On a des circonstances extérieures avec la jalousie, les querelles. Ils donnent tout pour creuser des puits. Et il y a des mecs qui arrivent et qui rebouchent tout. Vous imaginez, vous vous mettez à sa place. Encore une fois, c'est peut-être dur parce qu'on n'a pas besoin de creuser des puits ici à Saint-Quentin. Enfin, je pense pas. Pour trouver de l'eau. Mais on peut imaginez tout ça dans notre travail, au collège, au lycée, dans nos études. On donne tout et quelqu'un à côté arrive et fout en l'air tout notre travail. On peut l'imaginer, non? Et ici, tout va à l'encontre des promesses de Dieu. Isaac, il est chassé, il est menacé. On le prive d'eau. Et là, on se rappelle les promesses. Un pays, une descendance, être source de bénédiction pour les nations. Un pays, mais c'est la famine. Un pays, mais on me jette de ce pays. On me chasse de ce pays. Une descendance, mais c'est la famine. Une descendance, mais je ne sais pas comment nourrir ma famille, ma femme, mes serviteurs. Une descendance, mais on en veut à ma vie. On me menace. Est source de bénédiction pour les nations, vraiment, mais les nations, elles m'en veulent. Elles me chassent. Là, c'est les nations qui sont plutôt malédiction pour lui que lui, bénédiction pour eux, n'est-ce pas? Tout va à l'encontre des promesses de Dieu. Alors, comment agir face aux inconstances de la vie? Quelques points. Premier point, chercher la paix avec tous autant qu'on le peut. En vrai, Isaac, il aurait pu chercher à perpétuer la querelle. On voit même, en vrai, que Abimélec, il vient le voir et dit « Pars parce que tu es plus puissant que nous !» Isaac, il aurait pu dire « Bah ouais, je suis plus puissant que vous, donc vous partez !» Moi, je reste. Non, Isaac a cherché la paix. Il est parti. Et plus tard, lorsque Abimélec revient le voir, on ne l'a pas lu, mais il revient le voir et dit « Bon, Isaac, peut-être qu'on pourrait faire la paix, en fait. Peut-être qu'on pourrait signer un pacte, un contrat pour dire qu'on ne va pas s'attaquer l'un l'autre. » Isaac, il aurait pu dire « Bon, les gars, franchement, vous abusez, là. Sérieux? Vous me chassez de chez vous? Vous bouchez mes puits et vous venez me voir après, on fait la paix ?» Eh bien, il l'a fait. Il a fait la paix. Il a signé ce contrat. Je ne vais pas vous attaquer. Il a cherché la paix avec tous autant qu'il le pouvait. Il n'a pas cherché à se faire justice lui-même. Deuxième chose, donc, chercher la paix avec tous. Deuxième chose, Isaac ne s'est pas laissé abattre, on l'a vu. Il va continuer de chercher activement des solutions. Il va encore se mettre au travail. Un puits est bouché, ben on cherche ailleurs. Un autre puits est bouché, ben on cherche encore ailleurs. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a cherché des solutions. Et surtout, il a su de qui venaient les dons. Il a construit un autel en disant « L'Éternel nous a mis au large ». il a su que ses efforts n'ont pas été forcément récompensés par Dieu, mais il a su que c'est pas juste ses efforts qui ont fait qu'à un moment il a un puits qui a de l'eau. C'est ses efforts combinés avec la compassion de Dieu. C'est parce que Dieu a eu compassion. Si Dieu n'avait pas eu compassion, il aurait pu creuser le pays entier et il n'y aurait pas eu d'eau. C'est d'abord Dieu qui a compassion. Donc lorsque je fais des efforts, lorsque je ne me laisse pas abattre, lorsque je cherche des solutions et que enfin j'en trouve une, que je ne rende pas gloire à moi-même parce que j'ai fait des efforts, mais que je rende gloire à Dieu. Donc il a cherché la paix avec tous, il ne s'est pas laissé abattre, il s'est tourné vers son Dieu, il a su de qui venaient les bénédictions. Et on arrive à notre troisième partie qui sera en même temps une conclusion. L'attribut de Dieu qu'on découvre dans ce texte, qui est lié avec sa compassion, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Alors que tout est inconstant autour de Isaac, et même à l'intérieur de Isaac, Dieu, lui, est constant. Et donc oui, heureusement, nous pouvons prier que la bienveillance de Dieu est efficace. Oui, nous pouvons prier que Dieu est un rocher, même lorsque tout autour de nous s'écroule. Dieu est fidèle, on peut le voir de plusieurs manières dans ce texte. Déjà, il est fidèle parce qu'il parle. Dieu bénit parce qu'il parle. Il parle littéralement à Isaac. Il lui donne des indications. Il lui fait des promesses. Il renouvelle des promesses. Dieu parle. Quand j'étais tout jeune chrétien, j'étais un peu jaloux de ces personnages-là, parce que je me dis, mais moi, Dieu m'a jamais parlé de vive voix, quoi. Enfin, j'ai jamais entendu une voix venue du ciel me dire, mais fais ça, ou je te promets ça. Et en vrai, aujourd'hui, je suis reconnaissant de ne pas être Isaac. Parce que moi, j'ai tout ça. Moi, j'ai l'entièreté de la révélation. J'ai l'Ancien Testament qui me parle Isaac et j'ai le Nouveau Testament. Isaac a aperçu de loin le Messie. Nous, on a la révélation entière. Dieu parle. Dieu nous parle aussi aujourd'hui. Dieu est fidèle parce qu'il tient parole. Il fait pas juste parler pour ne rien dire ou il dit pas un truc et il fait autre chose. Il a renouvelé les promesses à Isaac et il a accompli ses promesses. Il avait promis un fils à Abraham, Isaac est venu. Il a promis à Isaac un fils, ben, si vous continuez l'histoire, Isaac aura même deux fils, deux jumeaux. Dieu tient parole, il est fidèle. Un dernier point, en abordant ce texte, on pourrait se dire, ben super, Dieu il est fidèle, ses bénédictions sont constantes, du coup, ben moi je lis le verset 13, cet homme devint très riche. Trop bien, Dieu il est fidèle. Du coup, ben, moi aussi je vais être très riche, non? Si Dieu tient parole, si Dieu dit ce qu'il fait, si Dieu fait ce qu'il dit, ben, alors j'attends, hein, mon compte en banque, je vais regarder, je vais être riche. Alors pour répondre à ça, j'aimerais qu'on puisse faire la distinction entre deux types de bénédictions qui viennent de Dieu. Je les appelle, alors on peut les appeler autrement, hein. Il y a les bénédictions promesses et les bénédictions constat. Les bénédictions promesses, c'est clairement, ben, Dieu dit à Isaac, tu auras une descendance, il a promis une descendance, et Dieu offre une descendance. C'est une bénédiction issue d'une promesse. Il a promis, Dieu fait. Et il y a aussi des bénédictions constat. Dieu n'a jamais promis à Isaac qu'il serait riche. Dieu n'a jamais promis à Isaac, je vais faire fructifier tes plantations. Non. Par contre, lorsque les plantations le rendent riche, alors le constat, c'est Dieu a béni. Un petit exemple très concret de ma vie perso. Quand j'étais à l'Institut biblique de Genève, à la fin de mon année là-bas, je savais que j'allais aller en Alsace, et en Alsace plutôt côté campagne, et j'avais pas de voiture. Et je me dis, honnêtement, si j'ai pas de voiture, ça va être compliqué pour me déplacer. Enfin, il y a pas de bus, il y a pas de train, voilà. J'ai pas de voiture, je viens de payer une année d'IBG, donc j'ai pas de sous sur mon compte en banque. Comment je fais? Je prie, d'autres prient avec moi. Et là, deux semaines après, il y a un gars qui vient à l'IBG, un Américain, qui dit « je pars à la retraite, je retourne aux États-Unis », c'était un chrétien, « et je donne ma voiture, parce que je ne peux pas la ramener aux États-Unis, je donne ma voiture à un étudiant qui veut continuer son parcours IBG. » Alors, on se questionne, est-ce qu'il y en a d'autres qui en veulent? J'étais peut-être pas forcément le seul. Au final, j'étais le seul. Donc, merci Seigneur pour cette voiture. Mais est-ce que ça veut dire que si ma voiture dehors, demain, elle lâche, Dieu va m'offrir une voiture deux semaines plus tard par un Américain? Ou Dieu va littéralement m'offrir une voiture? Non. Je fais le constat que Dieu m'a béni en m'offrant une voiture, j'en avais besoin. Mais c'est pas pour ça qu'il me promet qu'à chaque fois que j'aurai besoin d'une voiture ou d'autre chose, je l'aurai deux semaines plus tard. C'est pareil avec ces richesses de Isaac. Dieu, d'ailleurs, on le voit, il a connu la famine. Il n'a pas toujours été riche. Il a connu les querelles. Il n'a pas toujours eu la belle vie. Alors, on n'est probablement pas tous aussi caricatural de se dire, on va être riche, Dieu va nous bénir en ayant un gros compte en banque. Je ne pense pas que beaucoup le pensent ici, même probablement personne. Mais en vrai, est-ce que parfois cette pensée de la bénédiction matérielle s'insinue pas un peu dans nos têtes et dans notre foi? Est-ce que parfois je me dis pas, quand même, je suis chrétien, au niveau de ma santé, ça devrait aller. Et du coup, ça remet en cause ma foi si j'ai un gros problème de santé. Mais Dieu, tu fais quoi? Je ne suis pas censé être heureux avec toi? Et j'ai un cancer? Je vous lis deux citations. La première de Benjamin Egan, qui dit « Quand vous pensez au moment où Dieu vous a béni dans votre vie, vous pensez prioritairement à des choses matérielles plutôt qu'à des réalités spirituelles. Si oui, c'est que vous avez un évangile du bien-être. » Auto-centré, centré sur nous, sur vous, sur moi, plutôt que centré sur Dieu. Et ça, réfléchissons. Lorsque je pense au moment où Dieu m'a béni dans ma vie, quelles sont mes premières pensées? Bénédiction matérielle ou bénédiction spirituelle? Deuxième citation de Carl Truman, qui dit « Tous les croyants n'adhèrent pas explicitement à l'évangile de la prospérité, mais bon nombre d'entre nous se fient à notre degré de bonheur personnel pour évaluer la bénédiction divine dans nos vies. C'est le résultat de l'infiltration de la culture axée sur la psychologie et la thérapie dans notre christianisme. Nous n'adhérons pas à l'évangile de prospérité, mais bon nombre d'entre nous se fient à notre degré de bonheur personnel pour évaluer la bénédiction divine dans nos vies. » Sous-entendu, si je suis heureux, c'est que je suis béni. S'il m'arrive un malheur, c'est que je suis maudit. Mais heureusement, on a chanté tout à l'heure « Toi qui disposes », le premier chant, qui nous rappelle, deuxième couplet, que le bien suprême, c'est le pardon et la paix. C'est pas une voiture, c'est pas mon compte en banque, c'est pas être marié, c'est pas avoir des enfants, c'est pas avoir un nouveau travail, c'est pas avoir un patron sympa. C'est le pardon de Dieu et la paix. Pour terminer, j'aimerais nous encourager à vivre cette période de Noël en nous rappelant, comme l'a dit Rav, que Dieu est rempli de compassion, que Dieu est fidèle, et que si nous pouvons être assurés de la compassion de Dieu, c'est bien parce que Dieu est fidèle. Parce que si Dieu était compatissant, mais pas fidèle, ben, il aurait de la compassion pour nous aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être encore moins la semaine prochaine, et à nouveau beaucoup dans 3 semaines. Non, Dieu est fidèle, il est rempli de compassion. Et il l'a prouvé d'une manière, c'est qu'il a envoyé le Fils de la promesse, Jésus-Christ, qui lui a été constant, qui lui n'a pas eu peur des hommes, qui lui a été jusqu'au bout, et qui lui nous offre le bien suprême, le pardon de Dieu et la paix avec lui. Bon dimanche à chacun.